ce jour de juin 1881, lors du congrès du Parti ouvrier, Jean-Baptiste Dumay monte à la tribune. Ce militant ouvrier, devenu élu socialiste, vient y délivrer un rapport qui, une fois édité, prendra le nom de « Un fief capitaliste, Le Creusot ». Les éditions du Coquelicot lui redonnent vie aujourd'hui en y adjoignant une utile préface et une biographie de Jean-Baptiste Dumay due à l'historien Yves Meunier. Entre Le Creusot et Dumay, c'est une longue histoire. Qui dit fief, dit seigneur. Et au Creusot, l'incontesté seigneur a le visage d'une famille, les Schneider. Et quel seigneur ! Dans la France républicaine d'alors, Schneider a trois visages. Celui du bâtisseur d'empire industriel, du fieffé réactionnaire et celui du patron paternaliste, autoritaire comme il se doit, mais soucieux de ses gens. C'est à cette dernière image que Dumay s'attaque en dévoilant la façon dont Schneider organise sa domination politique, économique et sociale sur le territoire. Et la charge est aussi rude que l'ennemi est puissant. Ce à quoi s'attaque Jean-Baptiste Dumay, c'est à un état dans l'état. Un état d'une telle puissance qu'elle pousse Dumay à écrire que le Creusot, ville de 26 000 habitants, n'a pas de mairie et pas d'école, puisque presque tout est entre les mains de la dynastie. Et pour régner, la famille Schneider peut compter sur tout un réseau d'alliés et de courtisans. Il y a bien sûr l'Église et ses aumôniers qui veillent à ce que la masse ouvrière ne s'égare pas. Il y a les employés, dessinateurs et autres comptables qui, jouissant de quelques privilèges, servent à l'occasion de garde-chiourme et prêchent la bonne parole patronale. Il y a surtout une telle omnipotence que toute dissidence est risquée. L'ouvrier récalcitrant, contestataire, risque évidemment le renvoi, mais aussi le bannissement, puisque Schneider contrôle une grande partie de l'activité économique du territoire. Quant au marché locatif, il en est le principal bailleur. Le commerçant et l'artisan critique ont de fortes chances de se voir mettre à l'index, de perdre ainsi la possibilité de travailler pour Schneider ou de voir leur clientèle les fuir pour éviter elles-mêmes d'être stigmatisées. Le républicain, la discrétion est requise parce que chez les Schneider, on est monarchiste. Bref, il faut rester dans les bonnes grâces du seigneur des lieux. Ou plus précisément, toute la famille doit se plier à cette règle, car, écrit Dumay, il n'est pas rare que toute une famille soit renvoyée des ateliers parce qu'un fils ou un frère a voulu secouer le joug. Et quel joug ! Dumay évoque des conditions de travail effrayantes auxquelles sont soumis les prolétaires des deux sexes, les cingleurs, lamineurs, puddleurs ou les laveuses de charbon. Il parle aussi de ces amendes qui pleuvent sur les mineurs, amendes qui servent à abonder la si généreuse caisse de secours aux malades et blessés mise en place par la direction, symbole de la générosité patronale. Outre sa description du système Schneider, ce rapport de Dumay est important parce qu'il précède de quelques mois l'apparition, dans le bassin minier, de la bande noire, dont les pratiques d'action directe et l'esprit anarchisant vont marquer le bassin houillé de Saône-et-Loire, jusqu'à son démantèlement par la police en 1885. C'est à coups de dynamite que ce groupe se faisait entendre, aux grands dames d'un Dumay qui ne vit en eux que des provocateurs à la solde des Schneider, chargés de briser la vague socialiste montante. Sa dénonciation sans fondement de la bande noire le poussa prestement à quitter la région et à rallier Paris, où il fit carrière dans la politique. C'est en effet moins risqué. Je vous engage à lire cette brochure, Jean-Baptiste Dumay, un fief capitaliste, Le Creusot, publiée par les éditions Le Coquelicot.